Bonjour à tous, vous écoutez Votre Santé, Votre Avenir, le magazine c'est VOA Afrique. À ce micro, je suis Mamadou Koumfa et Rosine Mounezero est avec moi dans ce studio pour la co-présentation.
Bonjour Mamadou, chers auteurs, cette semaine nous parlons du VIH et surtout des difficultés d'accès aux médicaments antiretroviraux pour les personnes en zone rurale.
Une personne peut parcourir 4 cm pour atteindre la première avec la plus près de chez elle. Généralement, ces personnes-là, ils vont pour une solution, une médecine par exemple rationnelle, qui va pas tout faire la difficulté qu'ils vont trouver à sa mère.
Au Cameroun, les autorités multiplient les efforts pour rendre accessible les médicaments dans l'unité plus proche du pays.
Chaque parent participe bien dans une collection de journal parce que on savait plus s'exprimer. Maintenant, il reste le problème de la dispensation. La formation s'allait vers la 6 niveaux que nous sommes en travail.
Pourquoi certains d'entre nous ne passent pas les ARV? Comment se déroulent les dans cette mission? Font les bergements pour remédier ces problèmes? Parlerons de l'Ompe de Cameroun. Frappez la vidéo. L'œil de l'unité. L'actualité, c'est avec Fernand Koya. Bonjour Fernand. Alors qu'on s'en parle l'épidémie de choléra, c'est dit au Nigeria. Une épidémie qui aurait fait 13 morts.
Tout à fait, Rosine, très récente, sont mortes de choléra après avoir bu de l'eau contaminée en UB dans le nord-est. Dans ces fêtes, c'est le dernier ministre local de l'Unité. Le ministre Monabé a ajouté que le total de 109 cas était risqué. Nous avons été en mesure de la source d'épidémie dans le monde. Les chauves s'enragent et ont été dit qu'il y a suppression d'un grand futur de la paille et de l'expérience de l'Unité de l'Unité.
Et tu rappelles ce que c'est que les rats et
les rats. C'est que les rats d'aliments sont possibles. Laisse-moi jour action. Si c'est que nous avons un peu de temps pour le rat et l'envie de l'épidémie, tu es le patient en l'espace de 2 heures. Si aucun traitement n'est arrivé, la prévention choléra se fait essentiellement en sorte de d'hygiène stricte avant et après pas en buvant l'eau potable et en traitant les plombs ainsi que les aides.
Parlons maintenant de la maternelle. L'OMS et l'UNICEF ont publié le 11 avril dernier de nouvelles orientations pour favoriser cette forme d'alimentation pour les enfants.
Tout à fait, Rosine. Ces orientations pratiques intitulées 10 mesures en faveur d'un allaitement maternel réussi s'inscrivent dans le cadre de l'initiative Hôpitaux Amis des bébés lancée par les deux organisations en 1991. Elles encouragent les mères qui viennent d'accoucher à allaiter au sein et informent les agents de santé sur la meilleure façon de soutenir l'allaitement maternel. Pour l'OMS et l'UNICEF, l'allaitement au sein de tous les nourrissons jusqu'à l'âge de 2 ans permettrait de sauver plus de 820 000 enfants de moins de 5 ans chaque année. L'allaitement maternel permet non seulement de diminuer les dépenses des familles, mais il y a d'autres avantages sanitaires et sociaux. Il diminue les risques de mourir d'une diarrhée infectieuse, améliore également le quotient intellectuel de l'enfant et réduit le risque de cancer du sein chez la mère.
Eh bien, peux-tu nous dire exactement en quoi consistent ces nouvelles orientations?
Globalement, ces orientations précisent que les hôpitaux devraient disposer de politiques écrites en faveur de l'allaitement maternel. Elles recommandent également de faire un usage limité des substituts de lait, de pratiquer le grooming qui consiste à placer la mère et le nouveau-né dans la même chambre, de prêter attention aux réactions du nouveau-né pendant les tétées, prendre au courant comment utiliser le biberon et les tétines et d'apporter un soutien au moment où les mères et les nouveau-nés sortent de l'hôpital. En mettant en œuvre correctement ces mesures fondamentales, il est possible d'améliorer considérablement les taux d'allaitement dans le monde et de donner aux enfants le meilleur départ possible dans la vie, a déclaré Henrietta Fore, la directrice générale de l'UNICEF.
Vous suivez Votre Santé, Votre Avenir sur VOA Afrique.
Terminons par une étude scientifique selon laquelle dormir tard a des conséquences sur la santé.
L'étude réalisée à partir d'une base de données publique est parue dans le journal spécialisé Chronobiologie Internationale. Selon l'étude, les couches tard ont plus tendance à souffrir de troubles psychologiques, de diabète, de troubles neurologiques, gastro-intestinaux et respiratoires. Ils ont également davantage tendance à fumer, boire de l'alcool, consommer de la caféine et des drogues illégales. Selon Christian Nutson de l'Université Northwestern de Chicago, co-auteur de l'article Notambule, selon le président auteur de tueur, et plus tard, on va bénéficier d'une flexibilité d'horaire de travail pour commencer et finir.
Merci, Fernand.
Votre Santé, l'avenir, l'invité de la semaine.
Au milieu de l'année 2017, selon l'OMS, 2,9 millions de personnes bénéficiaient d'un traitement antiretroviral dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, ce qui ne représente 5-3% des personnes qui vivent avec VIH dans ces pays. D'ailleurs, même parmi les personnes sous traitement antiretroviral, l'accès aux médicaments n'est pas toujours facile. C'est pour les patients vivant dans la terre rurale. Ces différents antiretroviraux sont autant sujets. Or, pour ce qui est le plus important en rural, comment se débrouiller faire face à la situation, et en conséquence, 10% par rapport à ce qui est en gérant un travail par contre, cherche le moment logique, massa à manger qui vient en rade de l'état mouvement qui est en rade.
Les unités de prise en charge pour les personnes séropositives. On constate quoi si j'en ai un petit exemple Une personne qui, par exemple, se trouve dans un village, elle peut parcourir plus de 400 km pour atteindre la première OPEC le plus près de chez elle. C'est des coûts, en fait, tout simplement pour ces malades-là, qui n'ont pas forcément, parce qu'on a affaire à une population des plus précaires. Et donc, justement, c'est de trouver une solution pour cette communauté-là, ces communautés qui, malheureusement, sont souvent délaissées dans différents programmes, justement, qui sont mis en place.
Alors, dites-nous, comment est-ce que vous expliquez le déficit d'accès aux ARV selon les échanges que vous avez eus à fois avec les décideurs et les hôpitaux et les malades sur le terrain?
Alors, le premier, quand on va s'adresser au ministère de la Santé, parce que Jikmessa est un partenaire du ministère de la Santé, c'est vrai que le Cameroun connaît actuellement des ruptures de stock de traitement. Mais on peut voir qu'en ville, il n'y a pas cette difficulté justement pour les malades d'avoir accès à ces traitements. Donc la réelle difficulté qu'on constate, c'est justement le manque d'unités de prise en charge pour les séropositifs. C'est vraiment ça la difficulté. La deuxième difficulté aussi, c'est que l'État, il y a 2 ans, a mis en place des organisations qui assuraient la dispensation communautaire, donc c'est-à-dire la distribution des TARV. Mais on peut constater que encore aujourd'hui, en 2018, il y a très peu de dispensateurs justement communautaires, notamment dans les zones rurales. Donc nous, notre but justement dans les projets qu'on aimerait développer, c'est tout simplement amener aussi bien l'État et les différents programmes qui sont mis en place au Cameroun de développer davantage justement de dispensateurs communautaires qu'on permette aux OSCD, donc aux organisations de la société civile, de justement pouvoir distribuer maintenant les TARV à ces personnes-là.
Au-delà de la disponibilité des antirétroviraux, est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui rendent difficiles les traitements aux antirétroviraux chez les personnes qui vivent avec le VIH dans la zone que vous suivez, effectivement?
Alors, vous savez que quand vous êtes séropositif, le meilleur des cas, c'est que vous faites partie de la ligne 1, c'est-à-dire que vous prenez un traitement qui est pris en charge par l'État et que vous avez une charge virale indétectable, donc que vous êtes relativement en bonne santé grâce à ce traitement. Mais ensuite, dans les autres cas, il y a beaucoup de personnes qui développent des maladies ensuite opportunistes et qui doivent donc se rendre à l'hôpital très régulièrement. Et on peut constater justement qu'il y a un vrai problème déjà au Cameroun en général de se rendre à l'hôpital. Il y a beaucoup de personnes qui sont réticentes à cela. Et deuxièmement, bah justement, c'est l'accessibilité, le transport, la précarité de ces personnes-là qui ne peuvent pas se permettre de payer un plus de 10 000 francs CFA aller-retour pour aller à l'hôpital justement se soigner. Donc généralement, ces personnes-là, ils vont opter pour d'autres solutions, une médecine par exemple traditionnelle, etc., qui ne va pas toujours pallier à la difficulté qu'ils rencontrent face à la maladie.
Quelles sont donc les conséquences de ces difficultés d'accès aux antirétroviraux pour les personnes qui vivent avec le VIH-SIDA?
Les conséquences, c'est tout simplement des patients qui ont un virus qui va se développer, justement, une charge virale qui va être détectable, c'est-à-dire qui pourra être transmissible. Nous, on est vraiment axé aussi sur l'éducation sexuelle. Donc, effectivement, si les personnes ne sont pas assez sensibilisées à se protéger, etc., à avoir des comportements tout simplement sécuritaires, ils vont tout simplement transmettre le virus à leur entourage, enfin à la personne qu'ils vont côtoyer tout simplement. Et également, les maladies opportunistes qui peuvent amener au décès des personnes. Et c'est très triste, en fait, en 2018, de voir qu'on peut encore mourir du sida, ce qui ne devrait plus être le cas aujourd'hui.
Finir, Emeline, que compte faire votre organisation pour contribuer à l'accès aux antirétroviraux pour les personnes qui vivent avec le VIH-SIDA?
Moi, c'est pour ça que je suis ici au Cameroun actuellement. C'est pour aider justement Jikmessa à développer des projets viables et de poids dans la lutte contre le VIH et le SIDA, et leur permettre justement, grâce à ces projets, d'avoir un vrai plaidoyer de qualité auprès de l'État. Comme je l'ai dit précédemment, soutenir qu'il y a une réelle nécessité de développer les UPEC et développer des dispensateurs communautaires dans les zones rurales. Et nous, toute l'expertise, toute l'étude de terrain qu'on fait au quotidien à travers nos projets actuels, ça va permettre justement d'avoir un plaidoyer fort face à l'État.
Nous remercions Emeline Girondin, les chargées d'aide au développement du Jikmessa, une ONG centrale au Cameroun. Elle était autour de notre président, Jean-Noré Kouam.
Dans la vie, voici le village. Les autorités camerounaises sont conscientes de ces risques et essaient d'élargir un peu la prise en charge thérapeutique des personnes vivant avec le VIH, y compris dans les zones rurales. C'est ce que nous avait dit le docteur Balaro. Il est spécialiste et médiateur en réalité contre les agences du département de Cameroun. Il est notre correspondant Honoré Kouam.
Le Cameroun connaît-il souvent les problèmes de rupture de stock ou d'insuffisance d'antirétroviraux? Si oui, comment est-ce que vous expliquez ce phénomène?
Bon, il y a très longtemps que le Cameroun n'a pas connu de problème de rupture.
Martin Dandiri Trouvio. Comme vous le savez, il y a 3-4-5 ans avant, on parlait de rupture. Si un patient n'avait pas assez, on parlait de grève des patients qui prenaient des médicaments. Mais ça a fait quand même un certain nombre d'années que les journalistes n'en parlent plus. Tout simplement parce que l'État et ses partenaires ont fait beaucoup d'efforts dans ce sens. Beaucoup d'efforts ont été faits dans la disponibilité des antirétroviraux par le Fonds mondial, qui est le principal bailleur de l'État et qui en fait une priorité, mais également par le PEPFAR, qui est le programme du président américain de lutte contre le sida, qui est en cours dans plusieurs pays africains. L'ensemble de ses partenaires s'est concentré beaucoup plus la disponibilité des antirétroviraux. L'espoir, avec le Fonds de contrepartie d'État, mais en œuvre, on n'a plus depuis l'antirétroviraux.
Comment est-ce que ça s'organise à différents antirétroviraux au Cameroun?
Tous les antirétroviraux suivent un problème parcours, celui des médicaments essentiels. Ça veut dire qu'on a le chemin d'achat qui est la Sénamé. Le programme national de contrôle de c'est des commandes au niveau de la Sénamé. La Sénamé, on a pu aller pour pouvoir prendre des antirétroviraux, évidemment sous financement du Cameroun et des Sénamé. Après avoir reçu les stocks d'antirétroviraux au niveau de la Sénamé, ils sont distribués au niveau des centrales d'approvisionnement régionaux qu'on appelle les CAP. Enseignement des CAP qui sont en matière de promotion de la santé, selon évidemment la commande passée par chaque région et selon la disponibilité. Et les formations sanitaires vont également venir s'approvisionner au niveau des fonds régionaux pour la santé après avoir passé les commandes au groupe technique régional. Le groupe technique régional va recevoir la commande de la formation sanitaire, il va la valider et ensuite il va la transmettre au fonds régional qui va livrer les médicaments. Donc c'est à peu près comme ça que le circuit des antirétroviraux est organisé de manière globale.
Que fait justement votre structure, le programme national de lutte contre le sida pour faciliter l'accès des patients des zones rurales aux antirétroviraux?
Là également, l'État et ses partenaires ont fait beaucoup d'efforts. Pour les patients qui sont en zone rurale, évidemment, l'accès aux médicaments reste un problème. C'est vrai, c'est un problème. Généralement, pour les formateurs sanitaires qui sont en milieu urbain, dont l'accessibilité au fonds régional est facile, ils viennent directement au niveau des fonds. S'ils sont dans les zones rurales, le fonds dispose de véhicules qui peuvent aller directement livrer ces médicaments au niveau des formations sanitaires. Et les ovios répondent également aux mêmes critères. Là, nous sommes pratiquement dans la région de l'Est. Et les responsables de fonds régionaux de lutte pour l'Ouest de l'Est, des dispositions pour qu'ils demandent des services au sein de la région, alors que, par exemple, il y a un besoin de fonds régionaux. Mais comment est-ce qu'il faut que les formations sanitaires puissent s'approvisionner dans ces magasins? Maintenant, reste le problème de la dispensation. Ça veut dire que la formation sanitaire vers la c'est assez vivant pour que nous sommes en train de travailler pour améliorer pour que le médicament soit effectivement disponible au niveau du patient.
Enfin, docteur, quelles sont les politiques à long terme pour éviter que le Cameroun ne soit victime des problèmes liés à la disponibilité d'un antirétroviral?
Il faut déjà rappeler que le Cameroun suit un agenda international qui est celui des 3-90, à savoir 90% des personnes séropositives doivent connaître leur statut, au moins 4%. Au moins 90% des personnes qui connaissent doivent être mises sous traitement. Au moins 90% des personnes séropositives doivent avoir une charge virale de l'État. Cela suppose que l'élément soit effectivement disponible. Alors l'État met tous les moyens en œuvre que ce soit fait, le médecin public a signé un nouveau partenariat avec le Fonds mondial qui a mis à disposition un certain nombre pour le contrôler la ludisme et la tuberculose. Et par son temps, il a mis toute la partie de ce médicament. On s'est dit, on est en 2020 et ça a été l'État aussi. Puisque c'est là pour les médicaments. Et puis encore, c'est un facile des médicaments. Les gens sont en train de s'appliquer. Un qui pense que le réponse est nul. Ça se rend compte qu'il était présent le sommet enfant qui conseille uniquement la maman en séance et son enfant. Actuellement, toutes ces formations sont peu prises en charge, même les adultes. C'est qui garde avancer. Ça veut dire que le médicament sur les zones disponibles dans toutes les formations sanitaires. Et vous savez que l'État fait beaucoup d'efforts en matière de construction de formation sanitaire, d'équipement, c'est bien, mais on dit pratiquement à 15 km au maximum de une formation sanitaire. À partir de cela, la politique de centralisation, c'est au traitement. Le développement, la transition du traitement n'est plus dans les mains. C'est-à-dire, actuellement, on tente de mettre une politique ou une association de lutte sur le sécurité pour dispenser les médicaments. C'est-à-dire, l'association qui serait la formation sanitaire de mise en charge. Et au lieu d'aller à l'utilisation de charge, il n'y aura plus de formation sanitaire dans l'association, qui sera un rapport aux unités de mise en charge. Donc, nous, en sorte avec cette politique-là, les médicaments actuellement accessibles aux populations, ainsi qu'ils sont dans les zones. À côté de cela également, nous testons comment nous stratégiques. Les intérêts sociaux. Il y a des compétences sociaux dont le rôle est justement d'accompagner les malheurs à pouvoir un traitement sur psychologique. Parce que vous le savez, prise en charge du VIH n'est pas uniquement médicamenteuse, également psychosociale, également nutritionnelle. Alors on a un nouveau programme pour les compétences qui sont des communautaires. Et dans certaines localités où les personnes ne peuvent vraiment pas arriver au niveau de la formation sanitaire, parfois c'est la compétence psychosociale qui ira délivrer le traitement à son domicile. Donc c'est autant de politiques qui sont déjà soit mises en œuvre, soit testées pour que le médicament soit accessible le plus possible en zone rurale.
Nous remercions le docteur Baléba Aubin pour son témoignage. Un témoignage recueilli par notre correspondant Joël Honoré Kouam.
Questions et commentaires, c'est maintenant. Chers auditeurs, un expert vous répond.
Voici le moment, chers auditeurs, où nous vous donnons la parole pour poser vos problèmes de santé. Notre consultant, le docteur Amar Nguenkap, a répondu à vos questions. Le docteur Nguenkap est médecin urgentiste et praticien au Centre Hospitalier Universitaire de Soissons, en France.
Allô, bonjour.
Allô, oui, bonjour.
C'est qui à l'appareil?
Hassan Omar Boulal.
Hassan, vous vous appelez d'où?
De Djibouti.
De Djibouti.
Oui, tout à fait.
Vous avez une question?
Oui, tout à fait. J'ai un père qui a eu une situation sur la
crise cérébrale.
Oui, comme traitement, il a fait guéri. Mais le problème, il s'est fait régulier. Une crise, c'est une voilà. Donc, comment faire, en fait, j'ai apporté des traitements sur ça et à chaque fois, ça revient. S'il arrête le traitement, rien, s'il fait le poids, il a tout le corps qui bouge, il vomit. Donc, où vient le problème? Et est-ce que, par exemple, est-ce qu'il y a des associations qui peuvent nous aider à amener à l'extérieur et avoir un voyage médical à l'extérieur?
Merci beaucoup Hassan d'avoir appelé. Docteur Ngakap est là pour vous répondre.
Ce que je veux préciser, c'est que la tuberculose est une infection bactérienne qui affecte surtout les poumons. Il peut également avoir d'autres localisations. La localisation cérébrale intervient comme une complication de la tuberculose dans son ensemble. Les crises épileptiques, très souvent, ne sont pas en rapport avec les effets secondaires du traitement, mais sont plutôt l'expression symptomatique de cette tuberculose au niveau, qui siège au niveau du cerveau. C'est pour cette raison que je préviens les rechutes que signale Hassan Chouffrin. Frère, si le traitement avec un respect de la prévention, avoir l'éthologie, les prescriptions, la durée de pression qui pourra aller soit à l'homme. Il est important de préciser que les essais aussi en chimérodance sont pour les moins longs, peut-être pas, parce qu'il existe encore des foyers de tuberculose cérébrale qui fait. C'est pour ça que je l'invite vraiment à revoir le médecin pour la guérison. C'est que l'essai, la répétition, soit la manifestation d'une tuberculose cérébrale qui existe encore. Et c'est une tuberculose cérébrale qui, heureusement, n'est pas complètement guérie. Par ailleurs, les mots de la tuberculose cérébrale, c'est que les rejets de tuberculose cérébrale, en rapport avec un état d'hiver, des cérébrales, j'ai pensé à mes soins, c'est pour un point. Par rapport à la capture des associations qu'il souhaite avoir, il faudrait d'abord connaître le motif d'éventuelle évacuation sanitaire. Ce n'est que lorsqu'on connaît le motif d'une éventuelle évacuation sanitaire, on peut proposer une éventuelle association. Et pour ma part, je pense qu'à Djibouti, il y a des compétences et les moyens pour pouvoir prendre en charge une tuberculose cérébrale, y compris une tuberculose cérébrale qui présente des effets typiques.
Quelle est la façon d'adopter pour une vie comme si c'était une cuisine ferme ou dans un pays?
Et votre santé pour l'avenir, VOA Afrique avec Rose Numéro.
Et moi, ou pas, samedi à 8h30, temps universel.
Votre santé, c'est votre avis.
Je suis malade, docteur. Je souffre de la sinusite. Que dois-je faire pour guérir?
Ce que je réponds à cet auditeur, c'est que dans un premier temps, les sinus sont des cavités osseuses qui sont situées au niveau des os du visage, notamment à l'arrière des fosses nasales et qui communiquent d'ailleurs avec ces fosses nasales. La sinusite va être l'inflammation de la muqueuse de ces cavités osseuses, en tout cas de la muqueuse des sinus. Très souvent, ce sont les sinus maxillaires et le sinus frontal qui vont très souvent être touchés par une infection qui peut être grave, une infection qui est bactérienne. Les causes de ces sinusites sont souvent en dehors de ces causes virales et bactériennes, des causes également allergiques. Le fait d'être prédisposé à des rhinites allergiques vont être facteurs de risque de sinusite. On a aussi des problèmes de déviation de la zone nasale, aussi des problèmes d'infection dentaire, de dentaire. Et des personnes qui font régulièrement des rhinopharyngites sont exposées à faire des sinusites. Pour ceux qui voulaient savoir comment débarrasser de la sinusite, moi je sais une chose. La première chose, c'est que cet auditeur doit consulter un médecin pour qu'il puisse faire un diagnostic précis de ces sinusites-là et des causes de ces sinusites-là pour mettre en place un traitement adéquat. Mais dans l'attente, je peux déjà le rassurer en lui faisant comprendre que près de 75% des sinusites, notamment des sinusites virales, vont guérir toutes seules au bout de quelques semaines. Mais cet auditeur peut aussi accélérer la guérison de sa sinusite en faisant un lavage de nez fréquent, qu'il lave son nez avec du sérum biologique tout simplement, et en faisant des inhalations à des vapeurs d'eau salée. À savoir qu'il met peu de sel dans de l'eau qu'il va chauffer et il va essayer d'inhaler dans cette eau salée-là. Et ça permet de dégager les sinusites en bien dégageant les fosses nasales. Et ça permet de guérir, d'accélérer la guérison du mode de la sinusite. Là, ce que je pourrais répondre à cet auditeur par rapport à la sinusite avec le souffle dont il voudrait s'en passer.
Si vous avez des questions ou des remarques, contactez-nous sur la page Facebook VOA Afrique. Par ailleurs, gardez la version télé de ce programme qui sera diffusé sur cette Facebook, sur le site web de VOA Afrique, voafrique.com et sur nos télévisions partenaires.
C'est ici que prend votre santé, votre avenir. Cette édition était consacrée aux problèmes d'accès aux ARV par les personnes vivant avec le VIH-SIDA dans les zones rurales. En parler, nous avons reçu comme invité Emeline Jandin, chargée d'aide au développement du JMASA, une ONG qui vient en aide aux malades de certains villages du Cameroun. Elle nous a parlé des difficultés auxquelles font face les PVV d'une petite localité camerounaise, tout en nous révélant comment son ONG vient en aide à ces malades. Nous avons aussi écouté Dr Baleba Aubin, coordinateur régional de la lutte contre le sida dans la région de l'Est, l'une des régions les plus enclavées du Cameroun. Il nous a expliqué les efforts du gouvernement pour rendre accessibles les médicaments aux populations des zones rurales. Nous disons merci.
Merci également à Firmin Payaouda qui était avec nous pour vous présenter les événements qui font l'actualité santé. Un grand merci à nos différents correspondants RDC, Galina Bachi, Béroma Tanda, Kichala et Erika Smissi à Bénisson et des préparations de cette édition. Une édition réalisée avec le concours de Tchèque Rekal Salune qui était à la console. À la présentation, vous étiez avec Rosine Mounezéo et j'étais accompagnée de Conseil TVA Fibli pour votre santé. Santé, c'est votre avenir. À très vite.
C'était une production de VOA Afrique. Pour vos commentaires, vos questions ou vos témoignages, trouvez-nous sur voafrique.com, sur notre page Facebook VOA Afrique.